Ben c'est maintenant, c'est là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet et tous ses amis.
Quand je raconte, quand je récite un petit poème, je vous en récite un par exemple, un petit poème d'Apollinaire, il est court. J'ai cueilli ce brin de bruyère, l'automne est morte, souviens-t'en, nous ne nous verrons plus sur terre. Odeur du temps, brin de bruyère, et souviens-toi que je t'attends.
J'ai cueilli ce brin de bruyère, l'automne est morte, souviens-t'en. Nous ne nous verrons plus sur terre, odeur du temps, brin de bruyère, et souviens-toi que je t'attends. C'était un des poèmes préférés de Stéphane Hessel, que l'on retrouve dans son livre « Oh ma mémoire ». Merci monsieur Hessel. C'est Jenny de Lille.
Ce qui est terrible, voyez-vous, c'est d'entendre une éditrice citer un poète sans le comprendre. Comme l'espérance est violente, la formule d'Apollinaire. C'est pas du tout, là, les belles enluminures. Ah, que c'est beau d'espérer. Il y a la violence en nous qui nous pousse à espérer. Ça veut pas dire ça du tout. Comme l'espérance est violente, ça veut dire, c'est violent de ne pouvoir échapper à un sentiment, l'espérance, qui n'aboutira pas. C'est ça que ça veut dire, je vous le garantis. Et puis, entendre dire aussi, un homme capable de s'adresser à un éboueur, à un chauffeur de taxi, à n'importe qui, sans aucune hiérarchie. Mais la hiérarchie, elle est contenue même dans la formule. Vous vous rendez compte, il est capable de s'adresser à un éboueur, je veux dire, à la lie de la société, quoi. Il s'agit de Stéphane Hessel, bien sûr. Et puis entendre l'esprit de résistance, vanté par le Premier ministre. Le type qui a projeté l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et qui envoie des CRS tabasser les zadistes. Alors c'est vrai que on a envie d'échapper à cette violence qui est celle de l'espérance. On peut espérer qu'aux obsèques de Stéphane Hessel vont assister non seulement François Hollande et son Premier ministre, mais aussi Angela Merkel, et aussi le Premier ministre espagnol, et le portugais, et pourquoi pas Barack Obama, et pourquoi pas Bernard Arnault, et Lagardère, et Bolloré, et Bouygues, et tous ces gens-là. Et pour dire des belles paroles, que l'esprit de résistance, c'est ça qui a sauvé le monde. Eux qui sont en train de l'enterrer, eux qui sont en train d'enterrer totalement toute possibilité d'espérance.
Bonjour, c'est Carmina d'Alfortville, 77 ans aujourd'hui. Ma journée a été gaie, mais très triste d'écouter. Stéphane Hessel est décédé. Je viens d'écouter. Le programme est magnifique. Et cet après-midi, malgré le poids de mes 77 ans, je vais être à la Bastille pour lui dire bravo Stéphane, tu nous as donné une leçon d'humanité, d'intelligence, d'amour. Je t'aime Stéphane. À bientôt.
Bonjour Daniel, bonjour à tous. Monsieur Jean-Marc Ayrault a rendu ce matin un hommage appuyé et mérité à Stéphane Hessel. Avez-vous entendu un seul commentaire sur le fait que le seul hommage légitime serait d'abord celui de mettre en pratique immédiate les propositions faites par Stéphane Hessel sur les réformes sociétales urgentes et nécessaires?
Merci Monsieur Mermet. Merci pour cette évocation de Stéphane Hessel. Je suis très vieille et j'espère peut-être rencontrer dans les Champs-Élysées ce magnifique monsieur. Pas les Iséliens d'en bas, ceux d'en haut, bien sûr. Avec beaucoup, beaucoup d'émotion, je vous embrasse.
Indigné. Me voilà indigné par la pensée unique chez les militants. Parce que ça existe aussi. Stéphane Hessel, non mais c'est pas possible, quoi. Le mec qui l'a soutenu, Rocard, Hollande. Et vous croyez vraiment que ce mec-là, il était indigné? En tout cas, si l'indignation s'arrête avant la révolte, je vois pas à quoi elle sert. Moi, je pense que il faudrait un petit peu regarder au-delà des apparences, pas être hypocrite comme la plupart des gens sur le répondeur hier l'été. Ce mec, il a demandé à Mélenchon, pendant la présidentielle, de ne pas se présenter. C'était en janvier 2012. Mélenchon lui en a pas voulu. Mais quand même, on sait bien que la plupart des gens qui écoutent la Bastille Jussy ont voté pour Mélenchon. Alors il faut un petit peu arrêter, quoi. Faut dépasser ça, quoi. Allez, indignez-vous, mais vraiment.
L'émotion et la lucidité dans vos messages, chers AMG, messages qui nous parviennent ici à Séville. On est à Séville aujourd'hui, pas tellement pour la Semaine Sainte, pas tellement pour les images qu'on a d'ordinaire de cette ville de Séville, mais pour les indignés, hein, Los Indignados, qui bouge, qui se remue aujourd'hui, il y a une grande manif à Séville, à l'occasion de la fête nationale, enfin la fête de l'Andalousie, la fête de l'autonomie de l'Andalousie. Et une manif bien battante, bien enthousiaste. La pluie commence à tomber sur Séville. Et nous, aujourd'hui, on va retrouver Stéphane Hessel, mais pas seul. On va le retrouver avec ceux du CNR, ceux du Conseil National de la Résistance. On les avait rencontrés, c'est Guy Vanctil qui les avait rencontrés pour nous, en 2004, à l'occasion du 50e anniversaire du Conseil National de la Résistance. Vous vous souvenez, vous devez connaître, j'espère par cœur, ce texte magnifique qui s'appelle « Les jours heureux ». Et autour, et avec Stéphane Hessel, il y a Philippe Deschartes, il y a, qui était à l'époque l'un des protagonistes de ce CNR, il y a Marc Ferraud, notre ami l'historien Marc Ferraud, Jean-Pierre Vernant, depuis disparu, Maurice Krigel, Valrimont, depuis disparu, et Stéphane Hessel, donc autour de ce CNR, autour de ce projet magnifique qui est une référence évidemment, pas seulement pour nous, mais à l'époque en 2004, c'était presque la redécouverte de ce texte, de cet élan et de ce moment de l'histoire. Donc on le retrouve aujourd'hui dans la basse J'y suis. Auparavant encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale, mais avant quelques échos de la manifestation hier soir à la Bastille, sur la place de la Bastille à Paris, en hommage à Stéphane Hessel.
C'est moins pour accuser le coup de la disparition de Stéphane Hessel, c'est plus pour accuser le côté, on va dire, résistance, pas indignation, résistance. Il y a beaucoup de biais pour faire une forme d'opposition à ce système qui nous entraîne un peu, on va dire, dans l'abîme.
C'était son message à Stéphane Hessel, vous, c'est ce que vous en retenez?
Lui, non. Lui, parler d'indignation, je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin que l'indignation. L'indignation, c'est qu'un mot. C'est qu'un mot. Je pense qu'avec le système, lui, il est en train de nous écraser. Va falloir trouver autre chose que de l'indignation.
Nous sommes nombreux ce soir à être touchés, à être attristés par le décès de Stéphane Hessel.
Là, on est sur les marches de l'Opéra de Bastille et il y a les différents discours qui se succèdent. Prise de parole devant une foule qui est rassemblée. Il fait très froid, mais il y a quand même plusieurs centaines de personnes, 200-300 personnes qui sont venues se rassembler en hommage à Stéphane Hessel ce soir.
Ce qui fait que je suis là ce soir principalement, c'est d'essayer de saluer ce combat et cette idée qu'il y a des choses inacceptables et qu'on doit continuer, nous, à se dire que ce qui est inacceptable, on doit lutter contre et efficacement. Dans un pays où il y a 2 millions de logements vides, qu'il y ait des gens qui crèvent dans la rue, c'est inacceptable. Qu'il y ait des gens qui soient expulsés, 30 000 expulsés par an, alors que, encore une fois, il y a 2 millions de logements vides, donc on pourrait tout à fait les accueillir, ces gens-là, c'est inacceptable. Que des gens aient une pression telle et une culpabilisation du fait de leur précarité et qu'ils se retrouvent à s'immoler dans un pôle emploi, c'est inacceptable. Je suis de ceux qui disent non.
Là, il y a des bougies qui sont disposées sur les marches de l'Opéra Bastille. Et voilà, des cierges et des bougies qui sont déposées par des jeunes, des moins jeunes, qui se recueillent devant cet hôtel improvisé avec une grande photo de Stéphane Hessel où il est inscrit en dessous « Inclinons-nous ».
Y a-t-il aujourd'hui des motifs d'indignation qui subsistent? C'est évident. Y a-t-il encore des raisons de se dire « Ceci est inacceptable ?» Je dois me mobiliser. Ces motifs sont là tous les jours. Tous ceux qui crèvent de faim dans la rue, ceux qui ne peuvent pas payer leur loyer, ceux qui ne peuvent pas payer leur crédit, ceux qui sont saisis par les banques. Nous devons nous dire que nous ne pouvons pas nous en satisfaire. Ce message-là est extrêmement simple. Il l'a écrit en 32 pages. On peut l'écrire en autant de pages qu'on veut. Le message, c'est le même. C'est « Est-ce qu'on laisse faire ?» Et il faut passer d'abord du doute à l'indignation, de l'indignation à l'engagement. Et il y a un moment, il faut passer de l'engagement à une action coordonnée. Et moi j'appelle ça l'insurrection, j'appelle ça la révolte. C'est cette révolte qu'on voit en Grèce, c'est cette révolte qu'on voit en Espagne, C'est cette révolte qu'on voit partout dans le monde, de tous ceux qui disent ça suffit, on n'est pas des variables d'ajustement, on n'est pas simplement des chiffres, on n'est pas simplement des morceaux de dette à rembourser, on est des êtres humains.
Salut Daniel, je suis chauffeur poids lourd de centre de tri en fait. Je fais la sortie des supermarchés. La misère gagne énormément de terrain. Aujourd'hui encore, une dizaine de Roumains sont venus pour glaner dans la poubelle. Et l'agent de sécurité, franchement, quasiment les larmes aux yeux, obligé de les virer, de récupérer même dans les cabas qu'ils ont pris. Les Roumains sont complètement dépités. Et pas que des Roumains d'ailleurs, des retraités. Des petits jeunes qui font des études et qui s'en sortent pas. Voilà. Et c'est mon quotidien, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Des gens qui viennent manger dans la poubelle.
Bonjour, AMG de Strasbourg et alentour. Nous avons rendez-vous ce samedi 2 mars à 15h au bar La Perestroïka de Retiergarten. À samedi.
Oui, bonjour. J'appelle au sujet des deux émissions concernant les PPP. Je suis un architecte qui a eu l'occasion de participer à un processus de conception en PPP. En tant qu'architecte, en fait, ce que j'ai pu observer, c'est que l'architecte devient prisonnier des choix constructifs, donc de la qualité des prestations que le groupe impose en conception. Et ces qualités sont forcément toujours revues à la baisse dans le but de gagner de l'argent. Alors qu'en marché public courant, l'architecte était maître des choix constructifs du moment qu'il rentrait dans le budget. Et il avait tout intérêt à garantir la pérennité, la qualité des ouvrages. D'une part, parce qu'un architecte, bon, il prête serment, il a devoir de conseil, et il est garant de la tenue des ouvrages. À partir du moment où l'architecte ne travaille plus pour l'État, mais travaille pour un constructeur, je trouve que l'État a perdu un allié majeur, parce que avant l'architecte était l'expert qui l'aidait à garantir la pérennité des ouvrages dans le temps. C'est Sébastien de Toulouse.
En France, une caissière de supermarché soulève une tonne par heure. Vous avez bien entendu, une tonne par heure. Des troubles musculosquelettiques qui résultent de cette activité, comme de beaucoup d'autres, créent des invalides à vie qui ne peuvent plus rien faire, ni dans leur vie professionnelle, qu'ils n'ont plus, ni dans leur vie personnelle, et ce jusqu'au restant de leurs jours. Tout ça coûte 700 millions d'euros à la Sécu par an. Mais plus généralement, en France, il y a 1 million de maladies du travail et d'accidents du travail par an. Et tout ça coûte, au niveau général, à la société, 4% du PIB. Il faut savoir qu'en France, il y a un flic pour 600 habitants et qu'il y a un inspecteur du travail pour 10 000 salariés. Indignez-vous.
Salut Daniel, c'est Natacha. Voilà, je suis aide-soignante. Dans ma vie, je me suis occupée de beaucoup de monde, je me suis occupée des marmots, je me suis occupée des ados, je me suis occupée des psychos, je me suis occupée des vieillots. Et voilà, c'est les personnes âgées qui m'ont toujours le plus touchée, qui m'ont fait me sentir à ma place, c'était là que je devais être. C'est auprès d'eux que je me sens utile, que je me sens bien. Et j'ai dû arrêter tout ça parce que justement, ben, les fins patrons du privé finissent par te dégoûter de ton métier, finissent par t'empêcher de le faire correctement, et puis un jour tu te résignes, à force d'être licencié, à force de démissionner, parce que tu veux pas faire 20 toilettes en une matinée. Et voilà, un jour tu t'en vas, tu laisses tomber. Alors il me reste juste une culpabilité, c'est de me dire que bah, je me suis pas battue pour eux. Et finalement, je crois qu'il faudrait vraiment le faire pour toutes ces petites voix là que j'ai entendues dans l'émission, qui m'émeuvent tellement pour leurs petites voix, pour leurs regards, pour leurs petits visages pleins de rides qui racontent plein d'histoires. Voilà, ça me manque énormément. Et en écoutant ton émission aujourd'hui, ben ça m'a refoutu la rogne et ça m'a refoutu envie d'être auprès d'eux. Donc ben merci Daniel. Et puis ben il faut se battre pour eux. Il faut se battre pour eux. Ils le méritent tellement.
Salut les AMG, ce soir je vous invite à nous rejoindre pour le repère de la base si j'y suis de Revé. Souvent nous parlons de transition, de changement de société, mais comment le mettre en œuvre sans déstabiliser les revenus des travailleurs? Nous avons peut-être un début de réponse, ou en tout cas une proposition pour y arriver en douceur, le revenu de base. Nous pourrons débattre, on vous attend ce jeudi à partir de 20h30 au Canon à Pâtes, rue Alsace-Lorraine, à Rosé.
La radiodiffusion nationale vous parle.
On doit parler du programme du CNR parce que, un peu avant la libération, en mars 44, très exactement, le Conseil national de la résistance de l'époque a publié un programme. Il comportait ce qui s'appelait un programme d'action immédiate, mais aussi un programme pour la suite, c'est-à-dire pour la période qui suivrait la libération.
C'est ça, la libération, mais aussi prévoir l'après.
Exactement. Il fallait d'abord se libérer pour pouvoir faire autre chose. Et l'une des caractéristiques de cette période est que elle comportait la volonté de la libération, y compris la volonté de l'insurrection nationale, mais elle comportait aussi la prévision de l'organisation politique et sociale du pays. Et c'est en ça que le programme de l'époque est un programme qui a son actualité, parce que personne ne met en question la nécessité de remettre l'organisation sociale et l'organisation politique sur des rails qui ne sont pas parfaitement en état.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Vanctil. Là-bas, si j'y suis, le programme national de la résistance.
Pour la première fois, le Conseil national de la résistance parle au peuple de Paris.
C'est aujourd'hui le moment, le moment. Du combat.
Tous ceux qui sont tombés, tous ceux qui ont fait le voyage sans retour, ne sont point morts pour que reblanchissent les sépulcres. Toutes les citoyennes et tous les citoyens doivent répondre et comprendre que leur devoir n'est pas fini, que les puissances d'argent sont toujours là, que les influences étrangères guettent la France de toutes parts et qu'il nous faut travailler, encore travailler, durement et longtemps pour la libération de l'homme et d'abord pour libérer la démocratie de tout ce qui l'entrave. Ranimer les énergies, rappeler les devoirs aux consciences endormies, redire qu'après cette guerre effroyable et cette nuit profonde, le devoir commande de lutter encore. Le rassemblement que constitue l'Union démocratique et socialiste de la résistance n'a pas d'autre sens. Lutter, encore lutter pour la liberté.
Née de la volonté ardente des Français de refuser la défaite, la résistance n'a pas d'autre raison d'être que la lutte quotidienne, sans cesse intensifiée. Cette mission de combat ne doit pas prendre fin à la libération. Ce n'est, en effet, qu'en regroupant toutes ses forces autour des aspirations quasi unanimes de la nation, que la France retrouvera son équilibre moral et social et redonnera au monde l'image de sa grandeur et la preuve de son unité.
Je suis sur la place de l'Étoile, le jour de la rentrée de la colonne Leclerc dans la ville. Sur l'Arc de Triomphe, un immense drapeau tricolore. Des soldats passent dans leurs camions, dans des tractions. Des gars des FFI passent, assis sur les ailes, la mitraillette au poing. Une foule immense couvre toute la place. Tout à l'heure, on chantait la Marseillaise, ça va recommencer. Ça fuse tout le temps, toute la journée, tandis que les troupes de Leclerc passent dans leurs camions. Il y a là des Algériens, des Marocains, il y a là des marins avec leurs bérets dans les tentes, et il y a là beaucoup de Parisiens, des Bretons, des Lorrains, des gens de tous les coins de la France qui, dans l'armée Leclerc, en Angleterre, en Italie, se sont battus pour la cause de la liberté et qui aujourd'hui défilent dans Paris, capitale de la liberté.
Aussi les représentants des organisations de la résistance, des centrales syndicales et des partis ou tendances politiques groupés au sein du CNR, délibérant en assemblée plénière le 15 mars 1944, ont-ils décidé de s'unir sur le programme suivant, qui comporte à la fois un plan d'action immédiate contre l'oppresseur et les mesures destinées à instaurer, dès la libération du territoire, un ordre social plus juste.
C'est une Citroën qui vient de passer sur la place, qui a été prise par des patriotes et à la fenêtre de laquelle se trouve un type avec un mouchoir blanc, il a peur de se faire moucher. La voiture porte encore les numéros allemands et qui a passé à toute vitesse sous les acclamations de la foule. Voici maintenant qu'avancent des automitrailleuses françaises. Elles passent sur la place, les gens l'entourent, serrent les mains des gars qui sont dedans. Dans le véhicule, il y a des infirmières qui sont montées avec eux.
Alors voilà, des images sonores d'une époque. Tout dépend de la génération à laquelle vous appartenez. Pour beaucoup, ça rappelle des films. D'autres ont été les acteurs de cette époque. Après tout, il y a encore beaucoup de Françaises et de Français pour qui ce que nous venons d'entendre dit quelque chose, leur dit quelque chose au cœur. Au cœur, ça a été un moment terrible, formidable, exaltant, consternant, tout ce que vous voudrez, en tous les cas d'excessif et de superlatif, que ce moment de la libération de la France. Et il y a eu une résistance, comme vous le savez, faut-il le dire. Et dans cette résistance, pendant que des Français résistaient, que ce soit à Londres, que ce soit en France, même dans les maquis, la question se posait de « après ». Nous sommes en train de risquer nos vies, nous sommes en train de nous battre, mais pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qu'on fera après? Et la question s'est posée, évidemment, il y avait une grande diversité, comme vous le savez, parmi ces résistants. Il y avait des motifs bien différents de résister. On essayait de faire converger les résistances, mais les raisons de résister, les raisons d'agir dans la résistance étaient différentes. Eh bien, ça laissait la place pour cette résistance comme une responsabilité plus que politique, historique. Et ils ont eu le sens de ça. Alors, c'est venu de Gaulle qui a chargé Jean Moulin d'élaborer un programme au sein de ce Conseil national de la résistance. Et puis, d'autres ont repris ce projet. Il a fallu réunir les composantes très différentes, trouver ce qu'on avait en commun, plutôt que de trouver ce qui séparait. Et puis, on est arrivé à ce programme qui, aujourd'hui, vous avez entendu, semblerait tout à fait révolutionnaire. On dit, mais qu'est-ce que c'est que ces gauchistes allumés utopistes qui proposent des choses pareilles? Alors, voilà ce que nous célébrons aujourd'hui.
Aujourd'hui, nous voulons vous rappeler ce que, dans leur dernière réunion, ont décidé les représentants de toutes les organisations de résistance groupées au sein du Conseil national, en vue de l'action immédiate, former des comités dans les villes, villages et entreprises, et y enrôler les patriotes non encore organisés. Tous les comités ainsi constitués doivent être placés sous le contrôle du Conseil national de la résistance en attendant le déclenchement des opérations. Ce sera notre destin d'avoir vécu en des temps historiques. L'an prochain, nous pourrons penser au Muguet. Aujourd'hui, il n'est de pensée que pour la guerre, il n'est de chant que ceux de la résistance.
C'était le 1er mai 1944. Cette voix, c'était un des porte-parole du Conseil national de la résistance et qui dit bien la vibration politique de cette époque. Et ce Conseil national de la résistance élaborait un programme où on voulait l'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale, le droit au travail, la participation des travailleurs à la direction de l'économie, une retraite pour les vieux travailleurs, l'accès à la culture, etc., qui étaient des choses neuves, issues des luttes, notamment celles du Front populaire, mais qui donnait toute sa place à l'État, au contrôle par l'État de la vie politique et de la vie sociale, mettant évidemment l'économie à sa place, c'est-à-dire la seconde, pour ne pas dire la troisième. Évidemment, c'est à partir de ce programme et de cet esprit, disons, de résistance, allaient s'élaborer les politiques d'après-guerre, et puis ces fameuses 30 glorieuses, et puis on allait passer... au cours des années 70, depuis 20 ou 30 ans, 10 ans, 25 ans, un bond en arrière, un grand bond lent et en arrière. Alors, rencontre avec les acteurs de cette époque, avec Guy Vanctil.
Marc Ferraud, oui. On fait appel à vous justement pour parler du CNR. Cet élan qui était le CNR, parce qu'il faut le prendre comme ça en fait. Mmh. C'était une impulsion, oui. C'était une ligne directrice qui était justement cette tentative d'agréger un maximum de mouvements de résistance. Ça s'est passé fin 43, début 44.
C'est ça, fin 43, début 44. Et c'est en 44 qu'un début de programme s'est constitué, s'est bâti, si vous voulez, que De Gaulle et le CNR ont appliqué dès la libération, si je puis dire. Sauf que les partis politiques ayant retrouvé une vie et une vivacité qu'ils avaient perdue, eh bien, petit à petit, disons que les anciennes structures ont repris le dessus et le CNR... a disparu dans la trappe, quelques-uns de ses hommes participant au pouvoir. Alors l'exemple type, si vous voulez, c'est qu'après la mort de Jean Moulin, que Georges Bidault, quand il a pris la tête du CNR, la succession, et qui était un démocrate chrétien, n'est-ce pas, Georges Bidault a pu apparaître, n'est-ce pas, comme celui qui incarnait une certaine résistance au jeu des partis. Et il a pendant longtemps cru qu'il pouvait jouer ce rôle d'opposants d'égal à égal avec De Gaulle. Mais en fait, quand De Gaulle a constitué son gouvernement et qu'il est devenu ministre, très vite, des Affaires étrangères, et Saillant, qui a pris la suite de Bidault à la tête du CNR, a disparu dans la trappe, et le CNR, en tant que tel, n'a plus joué de rôle. Ce sont les partis qui ont commencé à jouer, et à jouer contre De Gaulle, mais ça, c'est encore une autre histoire.
Voilà. Mais dans ce court moment, en fait, du Conseil national de la résistance et de son programme, qui avait réuni justement un très large spectre dans ceux qui s'étaient battus, plus ou moins, m'a-t-on dit. Est-ce que ce n'est pas un de ces moments où l'histoire s'accélère, où ce qui se joue là, les cartes qui sont données là, vont celles qu'on va utiliser jusqu'aux 30 Glorieuses et encore jusqu'à aujourd'hui?
Oui, c'est-à-dire qu'on dirait qu'il faudrait des grandes crises pour que des grands changements puissent s'opérer. Et ça, c'est quand même ce qui a marqué ce tournant de 44-45. Car si on a pu décréter les nationalisations, sans doute c'est parce que ça pouvait être depuis quelques décennies le programme d'un certain nombre de partis politiques et en gros d'un certain nombre de gens de gauche, mais aussi pour autant que De Gaulle pouvait juger que, messieurs, à Londres, autant que j'ai souvenir, vous les patrons, il n'y en avait pas du tout. Donc la suspicion légitime à l'endroit du patronat, du grand patronat, venait autant de Gaulle que de la tradition, disons, socialiste ou communiste ou de gauche. Et c'est ce moment particulier qui a permis les nationalisations, la sécurité sociale, etc.
Des Parisiens qui sont si bien battus pour libérer leur vie.
Les Paris sont rendus.
Ah, bravo.
Alors, je ne sais pas du tout s'il était là ce jour-là, Jean-Pierre Vernant, lors de la libération de Paris, mais il fut un acteur très engagé, plus qu'engagé, dans la résistance. Il avait 30 ans en 1944, et on va entendre un ancien terroriste. Et oui, il était engagé dans le corps franc de la libération. Il dirigeait à Toulouse des cours sur le maniement des armes et même l'emploi des explosifs. Et oui, et bon, Jean-Pierre Vernant, c'est une très grande figure de la résistance, c'est un très grand historien, comme vous le savez, mais c'est aussi quelqu'un qui continue le combat, Jean-Pierre Vernant.
Aujourd'hui,
515e jour de la lutte du peuple français pour sa libération.
Vous, Jean-Pierre Vernon, vous étiez en Haute-Garonne et vous étiez investi de responsabilité dans la résistance. Comment on pouvait gérer les deux priorités ? Organiser la lutte contre l'occupant et la collaboration, et à la fois la préparation de l'après.
En mars 1944, en ce qui me concerne, étant donné les responsabilités que j'avais, je dirais volontiers que l'essentiel, c'était les tâches immédiates. On savait que le débarquement allait avoir lieu, il y avait ce qu'on appelait le plan vert. Bref, on raisonnait, moi j'étais à ce moment-là encore un jeune type, on raisonnait en fonction de ce qu'il fallait faire contre l'occupant.
Rappelez-nous vos responsabilités en mars 44.
En mars 44, je suis chef départemental pour la Haute-Garonne et pour Toulouse des forces françaises de l'intérieur. Donc c'était essentiellement les tâches de la lutte clandestine militaire. Mais on ne pouvait pas ne pas penser à ce sur quoi débouchait notre action. C'est-à-dire, bon, c'est bien joli, les Allemands s'en vont, Vichy s'écroule, qu'est-ce qu'on fait ? Et par conséquent, pour reprendre un peu ce que vient de dire Krieger-Valraymond, ce qui était, en ce qui me concerne, et en ce qui concerne, je crois, tous les types qui travaillaient avec moi, c'était l'idée que l'épreuve qu'on avait connue, le fait qu'au départ, un petit groupe, puis ensuite plus large, avait représenté la volonté de ne pas accepter la défaite, impliquait qu'il y avait une sorte d'unanimité dans les familles spirituelles, il y avait dans l'armée secrète et les FFI, toutes sortes de gens qui pensaient toutes sortes de choses diverses. Mais ce qui s'était forgé, c'était l'idée, d'abord, qu'il fallait chasser les Allemands, qu'il fallait chasser Vichy, et qu'il n'était pas pensable, inimaginable, nous étions naïfs, qu'après cela, après les épreuves, après l'effort, après le fait qu'on s'était tous frottés les uns avec les autres, que ceux qui étaient plus les laïcs ou athées avaient découvert chez les catholiques, en dépit des divergences, qu'il y avait des choses communes, que des gens très conservateurs ou royalistes qui avaient tout de suite déclaré non aux Allemands, non aux nazis, retrouvaient des gens qui étaient des communistes ou des anciens communistes. Tout ça faisait que, à nos yeux, on ne pouvait pas imaginer une seconde que la France d'après serait la même que celle non seulement de Vichy, ça va de soi, mais la même que celle de la Troisième République. Et donc, il fallait faire un programme pratique, une volonté politique qui corresponde à cette certitude que nous avions que, non pas le monde, mais la France allait changer, que l'Europe allait changer, qu'on entrait dans une espèce d'ère nouvelle. À la base, il y avait ça, l'idée que la France allait entièrement se renouveler dans sa façon de vivre la communauté française et que, ma foi, dès la libération, on a vu que les choses n'étaient pas aussi simples, mais que tout de même, à cette époque, était possible une série de grandes transformations économiques et sociales qui ont eu lieu, dont certaines, comme vous le disiez, sont encore heureusement debout, mais qu'on a bien le sentiment que contre ces murs qui ont été élevés à ce moment-là et qui traduisaient à la fois notre effort et notre unanimité, actuellement, les flots sont très puissants pour les faire tomber par terre, ce qu'il en reste.
Pourquoi des résistants avaient besoin de penser un après-guerre en termes de loi sociale et de loi économique ?
Ce n'était pas quand même des idées neuves. Le Front populaire avait existé avant, le radical socialisme aussi auparavant, et il y avait eu aussi une révolution en URSS, que je sache. L'idée de plan, de planification, de gestion de l'économie était quelque chose dont on avait parlé, et d'ailleurs dont on ne voulait pas dire trop qu'on s'inspirait de l'URSS, puisque c'était
Marc
de
la Ferraud.
Rouge, n'est-ce pas ? Et pourtant, on s'en inspirait quelque peu, avec des freins, bien sûr. Donc, l'expérience soviétique servait quand même de reflet, n'est-ce pas, de butoir à ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Faire si on était communiste, ne pas faire si on n'était pas communiste. En gros, Beveridge, en Angleterre, n'est-ce pas, quand il institue la sécurité sociale, le welfare state, ce qu'on appelle aujourd'hui l'État-providence, n'est-ce pas, eh bien, en fait, il avait lu ce qu'avaient écrit les bolcheviks, hein, et puis pas seulement les bolcheviks. Donc, gérer l'État, prévoir la sécurité pour la société, c'était des idées qui étaient dans l'air depuis... disons qu'une classe ouvrière était apparue en 1848.
Prenons par exemple l'intitulé. Le CNR donne pour objectif l'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de l'économie. Oui. Ça, c'est un des points de démarrage. C'est un peu la ligne rouge, quoi.
Bah, c'est pas nouveau.
Non. Non, mais est-ce que c'était pas nouveau, justement, que l'ensemble un peu de l'éventail politique français se mette d'accord sur ce principe-là?
Ah oui, ça, c'était tout à fait nouveau. Et ça tenait justement à cette conjonction que l'opinion pouvait juger au lendemain de la guerre, Deuxième Guerre mondiale, et même pendant l'occupation, que, disons, les classes dirigeantes, entre guillemets, avaient trahi. Fermez les guillemets. Ce qui était vrai et faux.
Bon, il y avait Renault, c'est sûr.
Oui, il y avait Renault, il y avait Berliet. La collaboration économique existait, même si, existait plus que ça, même si certains patrons voulaient sauvegarder les uns leur matériel, les autres leurs travailleurs. Je m'excuse de ça, mais c'est quand même comme ça que ça s'est présenté honteusement, n'est-ce pas?
Alors sur la collaboration économique, vous disiez ça, c'était une des raisons qui avait rendu possible l'accord sur ce programme social qui était de gauche.
Oui, parce que De Gaulle, n'est-ce pas, comme je vous l'ai dit, a quand même dit très fort, messieurs les patrons, à Londres, on ne vous a jamais vu. Donc il était, au fond, à sa façon catholique sociale, De Gaulle, et pas que lui. Donc il y avait des mesures de nationalisation.
L'électricité, l'assurance, la banque.
Pas toutes de la même façon. Les unes, c'était des sanctions, comme vous avez dit, Renault, par exemple, ou Berlier. Et les autres, c'était l'intérêt de la nation, c'est-à-dire que ce qui est nécessaire à la souveraineté nationale, les transports, l'électricité, les canaux, le charbon, enfin tout ce qui est la base de l'économie, de la société, n'est-ce pas ?
Les ressources
doivent appartenir à la nation et pas à des intérêts privés. Donc ça, c'est une idée qui, d'un seul coup, a pu, en quelque sorte, se transformer en réalité. Il ne faut pas l'oublier. Donc ça, c'est une période très rare, une année ou deux, où il y a eu une sorte d'unanimité nationale, n'est-ce pas, sur ce type de problème.
Ces comités devront, en accord avec les organisations syndicales résistantes, combattre pour la vie et la santé des Français pour une lutte quotidienne et incessante, par des pétitions, des manifestations et des grèves, afin d'obtenir l'augmentation des salaires et traitements bloqués par Vichy et les Allemands, et des rations alimentaires et attributions de produits de première qualité, réduites par la réglementation de Vichy et les réquisitions de l'ennemi, de façon à rendre à la population un minimum de vital en matière d'alimentation, de chauffage et d'habillement.
C'est vraiment une atmosphère qui défie la description. On ne sait pas quoi dire. Il n'y a pas de manifestation organisée, mais c'est une manifestation de joie et de bonheur profond, profond. Deux avions alliés. Tous les visages se tournent vers le ciel et les gens applaudissent. Ils sont heureux, heureux comme ils ne l'ont jamais été.
Jean-Pierre Vernon disait, à l'époque, on était naïf.
Oui, sur ce plan, parce qu'on était naïf. Je veux dire qu'on était à la fois très réaliste et très idéaliste. Les choses ne sont pas contradictoires.
Voilà, c'est comme quoi c'est pas incompatible.
Non, pas du tout, on n'était pas incompatible.
Vous parliez d'une rupture par rapport à l'héritage politique de l'avant-guerre. Mais en quelle mesure il y a eu un renouveau idéologique, par exemple Stéphane Hessel?
Alors, ce qui est certain, c'est ce que Jean-Pierre vient de dire, c'est que nous, alors qui est-ce nous? Nous, d'une part, nous parlons de ceux qui, en France, préparaient avec angoisse et un désir d'aller vite la libération et ce qui se passerait après la libération. C'est eux qui ont forgé ensemble ce qu'a été ce programme du CNR dont nous parlons aujourd'hui. Mais nous, c'était aussi naturellement les Français de Londres, ceux qui étaient, comme je l'étais moi à l'époque, en contact avec ces mouvements de résistance. Et pour cela, je crois que pour tout cela, il y avait, comme on l'a dit, un rejet radical de Vichy et un soupçon sur la façon dont la Troisième République avait manqué de gagner la guerre et en tout cas de s'y préparer. Donc, il fallait chercher un peu en deçà ou au-delà. En deçà. N'oublions pas ce qu'a été le Front populaire. Et le Front populaire a été un moment où la gauche unie, communiste, socialiste, radicaux, avait essayé de faire progresser la France dans le domaine social. On avait été bloqué, on avait été empêché. Ça n'avait pas été aussi loin que cette génération à laquelle j'appartiens l'aurait souhaité. Mais il y avait quand même des conquêtes, et notamment des conquêtes de législation sociale, qu'il fallait renouveler, reprendre et remettre à jour. Il fallait donc trouver, et ça a été le rôle très important, je ne veux pas parler trop longtemps, je me laisse toujours aller, mais je vais finir rapidement, rôle très important de ceux qui ont préparé le programme du CNR, c'est de donner voix à tous ceux qui pensaient en avant. S'appuyer sur l'ensemble du Conseil national où il y avait les Louis Marin, les royalistes, etc. Mais ce n'est pas sur eux que l'on comptait pour faire le mouvement en avant. On comptait sur les mouvements de résistance et on comptait sur les partis qui avaient pris fermement position dans l'esprit du Front populaire et contre Vichy.
Et maintenant, ricanez, messieurs les membres de la résistance. Messieurs les chefs de bande, messieurs les communistes, ricanez, mais vite, car le temps vous est mesuré. La France va respirer. La France des braves gens, la France qui a pu se tromper, mais qui ne sait ni mentir, ni trahir. La France des pères de famille et des gosses imprudents, mais généreux, celle-là choisira entre mes textes et vos dénégations, entre le maréchal et De Gaulle, entre le gouvernement français et les gardes rouges.
Radio Paris. Radio Paris est allemand. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand.
Alors contre les voix du soutien à la collaboration, celle de Philippe Henriot par exemple sur Radio Paris, eh bien il y avait ces hommes qui essayaient d'imaginer des lendemains, un peu des lendemains qui chantent en fait. C'était bel et bien ça, mais c'était pas limité. Dès qu'on emploie cette formule, on pense à la gauche, on pense au Parti communiste, etc. Eh bien non, on l'a vu avec ce que Marc Ferraud appelle les catholiques sociaux. Il y avait, on a réussi à essayer un projet, un souffle, habité par un souffle politique, et ça a abouti. Par le souterrain des choses, ça aboutit. Quel lien, quelle comparaison on peut faire entre cette époque historique et aujourd'hui ? Marc Ferraud.
Alors, on a vu la planification pour fixer la direction de l'économie au nom de l'intérêt général, les nationalisations. Il y avait aussi la sécurité sociale.
Ah oui.
Il y avait aussi le droit du travail avec les comités d'entreprise, etc.
Voilà, la sécurité sociale, c'est quand même important. Et moi, je suis toujours surpris quand je lis les ouvrages sur l'histoire de mon pays, n'est-ce pas ? Qu'on ne donne jamais le nom de Pierre Larocque. Car enfin, c'est lui le père de la sécurité sociale.
On devrait faire des monuments à sa mémoire.
C'est pas. Et alors, celui-là, Pierre Larocque, qui a vraiment instruit la création de la sécurité sociale, en s'inspirant en partie de Beveridge, mais tout le travail, c'est lui qui l'a fait, eh bien, il est inconnu. Regardez les index des livres, il n'est jamais cité.
Je ne connaissais pas.
C'est quand même assez extraordinaire. Bon. Et cet homme-là a gardé jusqu'à sa mort une modestie incroyable. C'est un héros de la nation.
Puisqu'aujourd'hui encore, on bénéficie de ces dispositions qui ont été prises dans ces 1 ou 2 ans, vous dites, où voilà. L'histoire s'est précipitée.
Oui, ce que on sait, je sais parce que je l'ai rencontré et je l'ai interviewé avant sa mort il y a 7-8 ans, c'est qu'à l'époque, n'est-ce pas, la sécurité sociale s'appuyait essentiellement sur les salaires, comme vous savez. Elle devait sauvegarder contre les maladies, etc., etc. Mais pas contre le chômage. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas. Et non seulement à l'époque, il n'y avait pas de chômage, mais on pensait, et on avait raison, qu'avec la reconstruction, avec le pays à revisiter et à rénover, on n'imaginait pas un instant qu'il y aurait une crise qui va avoir lieu 10, 15, 20 ans plus tard, n'est-ce pas ? Et que le chômage va devenir un des grands problèmes de la société française. Ce chômage qu'on avait connu en 1932, 1933, n'est-ce pas ?
Les conséquences de 1929, ouais, de la crise de 1929.
Oui, oui, rappelez-vous les défilés du travail ou du pain. Et déjà là, en 1948, le droit au travail. Donc, le droit au travail existait, mais on pensait que maintenant, c'était résolu, avec la croissance, le développement, la reconstruction. Autrement dit, dans le cadre de la sécurité sociale, on a pensé à mettre fin à la charité, si je puis dire, à l'assistance.
Aux bonnes œuvres.
Aux bonnes œuvres, mais on n'a pas imaginé que le chômage allait frapper.
En mars 1944, j'étais chef national de mon réseau, en charge de l'action militaire en ex-zone nord.
Philippe de Chartres.
Je venais de m'évader de Fresnes et je traversais à pied les Pyrénées pour rejoindre l'Assemblée consultative provisoire où j'avais été élu à Alger. Ça doit être à peu près.
À quelques jours près.
Oui, à quelques jours près. Ah ben oui, c'était très, très rapide. Bon, la pression de l'histoire était telle qu'il a fallu quand même quelque chose qui soit commun, construire intellectuellement, humainement, politiquement, un monde habitable pour tous. Et c'est là où chacun a fait l'effort, n'est-ce pas, d'essayer de voir ce qui pouvait être mis en commun, malgré les oppositions, malgré les difficultés. C'était le Conseil national de la résistance. Mais ça n'a pu avoir lieu que parce qu'on était dans une situation historique tout à fait exceptionnelle.
Voilà.
Une situation de crise.
Mais comment ça se fait que c'est au moment où on a le moins de moyens possibles qu'on décide de la sécurité sociale, qu'on décide de la retraite
C'est parce que quand on aborde la politique, on pense toujours que ce qui est essentiel, c'est l'économie. Bon, et bien sûr,
le primat de l'économie.
Oui, le primat de l'économie. Bien sûr, il n'y a pas de pays riche, il n'y a pas d'Europe riche sans une économie prospère. Mais la seule finalité du progrès économique, c'est le progrès social. Le progrès économique sans le progrès social n'aboutit qu'à la catastrophe.
Venez d'écouter une déclaration de M. Georges Bidault, président du Conseil national de la résistance.
Français. Paris s'est libéré et s'est libéré lui-même contre un ennemi en retraite et déjà en déroute, mais encore puissamment armé. La lutte continue dans le quartier populaire dont je vous parle. Vous pouvez entendre le canon ennemi et le mousqueton français qui alternent presque sans interruption, mais la confiance et l'enthousiasme ne sont pas du côté des gros calibres. 50 mois de honte et d'oppression sont aujourd'hui effacés et vengés. La France se retrouve plus grande. Au travers de l'épreuve, elle connaît aujourd'hui ceux de ses fils sur lesquels elle peut compter. Elle connaît aussi le pouvoir de l'union et du courage. C'est par l'appel à l'union et au courage que le Conseil national de la résistance, au nom duquel j'ai l'honneur et la fierté de m'adresser par l'intermédiaire d'une radio affranchie, à la France et au monde. Le Conseil national de la résistance a pu, dans la nuit de l'oppression, dresser un peuple pour le combat, dans le moment même où des vieillards chamarrés et d'abominables bandits s'efforçaient de prostituer toute sa gloire. La France est aujourd'hui, par le courage des combattants, à nouveau un pays d'hommes libres, un pays libre. Grâce au général de Gaulle, qui le premier donna le signal du refus de capituler, grâce aux combattants de la résistance, grâce à nos martyrs sans nombre, morts silencieux sous les tortures, la liberté des citoyens, l'indépendance de la patrie, la fierté d'un grand peuple sont pour nous des patrimoines reconquis.
C'est aujourd'hui le moment, le moment. Du combat.
Un document extraordinaire que ce discours de Georges Bidault le 24 août 1944, alors qu'il est cerné par des vrais coups de feu. C'est pas un montage, c'est pas une pièce radiophonique dramatique, c'est des vrais coups de feu. On l'entend dans les hésitations de cette voix qui se dresse contre les vieillards chamarrés. Il aura un sort, un trajet politique qui correspond pas forcément toujours à ce qu'il est en train de dire, ce Georges Bidault. Mais enfin voilà, les voix de cette époque, les voix de ce moment historique exaltant qui a été le Conseil national de la Résistance et de ce programme national de la Résistance. On retrouve Jean-Pierre Vernant.
Jean-Pierre Vernant.
Oui, moi, si je réfléchis à ce qu'a représenté ce projet par rapport à aujourd'hui, il me semble que ce projet traduit bien le modèle dans des situations où il existe des nations démocratiques et des États, où l'État avait la possibilité de redistribuer les richesses de la nation en s'appuyant sur le fait que les classes laborieuses, les ouvriers, par l'intermédiaire des syndicats et de leurs partis politiques, avaient une place suffisante pour, dans les négociations et les rapports de force, obtenir quoi ? Obtenir ce qu'on a vu, ce que chacun de nous a vu, nous, en 36. Arriver, la baisse des 40 heures, les congés payés, et ensuite, oui, tout le système de sécurité sociale, tout ce qui a été bâti, et qui fait que ça a été possible. Et je crois que, dans le cas qui est celui que nous célébrons ici, c'est un modèle, parce que la résistance avait fait en sorte que, précisément, ce qu'on appelle le peuple, les masses, les gens qui produisent, avait un pouvoir de négociation et de décision beaucoup plus grand. La question qui se pose aujourd'hui, qui se pose depuis 20 ans, et dont on nous rabat les oreilles, c'est qu'on nous dit que ça, c'est terminé, que la planification, elle n'est plus possible. Peut-être est-ce vrai, j'en sais rien, je ne suis pas économiste. Mais que, de toute façon, avec les nouvelles formes de communication, avec la mondialisation, les États nationaux n'ont plus en main les pouvoirs de jouer ce rôle d'arbitrage et de faire que, de temps en temps, les masses populaires bénéficient d'un certain nombre de mesures qui modifient leur mode de vie. Et ce mode de vie, pour la classe ouvrière française, elle a été très modifiée. Et alors ce qui se crée, c'est que la charrette que plus personne ne peut véritablement maîtriser en dehors des intérêts privés, la liberté de tout, le commerce et tout ça, le libéralisme, on s'aperçoit que, en dehors de ce qui est la classe ouvrière française, non pas traditionnelle, parce que celle-là, elle n'existe plus, il y a des masses de gens qui ont été jetés et qui sont hors société complètement, et où, par conséquent, tout système ne peut même pas leur profiter. Alors le problème, c'est de voir si aujourd'hui, il n'est pas possible, compte tenu des modifications qui se sont produites dans la vie économique et dans le jeu des forces politiques et sociales, d'avoir un programme qui est non pas, qui a une part d'utopie, mais l'utopie, l'avenir, c'est parce qu'il est marqué du sceau de l'utopie, c'est la même chose. Mais en même temps, qui, comme on l'a fait au moment de la résistance, ouvre une perspective qui apparaît en même temps comme possible ici et là, en France, et qui en même temps ne soit pas cet abandon complet, y compris cette destruction de ce qui avait été fait au moment de la libération et dans les années qui en suivent. C'est ça le problème. Thank you.
C'était le Conseil national de la résistance, une nouvelle version d'un reportage de Guy Vanctil diffusé pour la première fois le 12 mars 2004 avec les témoignages de Marc Ferraud et Philippe Dechartre ainsi que ceux de Jean-Pierre Vernant, Maurice Kriegel-Valrimont et Stéphane Hessel, tous trois aujourd'hui disparus. Merci également à Sylvie Gravagna pour les lectures de textes et merci à Gaylord Van Vimerge qui était hier soir au rassemblement en hommage à Stéphane Hessel à Paris. Par ailleurs, nous vous recommandons le documentaire Stéphane Hessel Sisyphe heureux, réalisé en 2010 par Sophie Lechevalier et Thierry Neuville, qui sera diffusé, rediffusé même ce soir à 21h40 sur France 5. Vous retrouverez toutes ces informations sur le site de France Inter, www.franceinter.fr, ainsi que sur le site la-bas.org et sur la page Facebook de l'émission À la technique aujourd'hui. Basile Bocquer et Ronan Mahé. Cette émission a été réalisée par Lucie Akoun, Antoine Chao et Coy Nguyen, préparée par Grégory Salomonovitch. Et Marion Dupas attend quant à elle vos messages sur le répondeur de la basse, j'y suis au 01 56 40 37 37.
France Inter présente le festival Tout Petit Cinéma du 2 au 10 mars au Forum des Images à Paris. Premières émotions sur grand écran pour les enfants de 18 mois à 4 ans. Projection de films, ciné-concerts, ciné-chansons animés par des artistes du spectacle vivant. 8 jours de fêtes dédiés aux plus petits et une initiation en douceur autour de la projection de Merveilles du 7e art. Retrouvez le festival Tout Petit Cinéma dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Après le journal, Frédéric Lodéon, bon après-midi à l'écoute de France Inter, il est 16h. Les informations avec Laetitia Gaillet.
Un dialogue doit s'ouvrir en Syrie entre toutes les parties. Un dialogue politique, a dit aujourd'hui François Hollande lors de sa conférence de presse commune avec Vladimir Poutine à Moscou. Ce dialogue doit trouver une forme nouvelle afin de débloquer la situation, selon le chef de l'État. Nous verrons, dit-il, dans les prochains jours, comment donner une traduction à cette volonté. Les deux présidents Hollande et Poutine ont par ailleurs exprimé leur refus d'une dislocation de la Syrie en raison des affrontements. Nous avons progressé avec Moscou et nous avons le même objectif, a déclaré François Hollande, qui doit achever sa visite à Moscou en fin de journée. Un Tunisien affirme aujourd'hui que l'homme recherché pour l'assassinat de l'opposant Chokri Belaïd est bien son fils Kamel. Il a suivi des études aux États-Unis aux frais de l'État tunisien et on lui a proposé, dit-il, un poste au ministère de l'Intérieur. Mais je le vois, dit-il, qu'une fois par an depuis ma séparation avec sa mère. Selon le ministre de l'Intérieur tunisien Ali Larayet, qui n'a pas donné de nom, lui, il appartiendrait à un groupe islamiste radical ainsi que ses quatre complices présumés. De son côté, le président tunisien lui est entendu ce matin par un juge d'instruction, le juge en charge de l'enquête. Les proches de Chokri Belaïd affirment que Moncef Marzouki savait qu'il était menacé et qu'il dispose aussi d'informations sur les commanditaires de l'assassinat. Le Sénat a adopté aujourd'hui les modalités d'application du référendum d'initiative partagée. Le texte est prévu par la révision constitutionnelle de 2008. L'UMP souhaite l'utiliser pour organiser un référendum sur le mariage homosexuel. Le gouvernement cède aujourd'hui aux taxis et renonce également à réformer le transport des malades. La loi de finances de la Sécurité sociale de 2013 prévoyait le lancement d'un appel d'offres pour les transports de malades jusqu'à présent réalisés par les ambulances et les taxis conventionnés. Les taxis avaient peur que cela mette à mal leur activité, surtout à la campagne. Ils avaient d'ailleurs manifesté en janvier dernier un peu partout en France pour protester contre cette mesure. Par ailleurs, concernant les véhicules de tourisme avec chauffeur, eh bien, ils n'auront pas le droit de prendre les gens dans la rue sans réservation préalable. La garde à vue d'un des hommes interpellés hier dans le cadre de l'affaire Mera a été levée aujourd'hui. L'autre, en revanche, est toujours en cours. Les enquêteurs cherchent à savoir si le tueur au scooter a bénéficié de complicité en dehors de son frère pour tuer 7 personnes l'an dernier. Le parquet de Bonneville, en Haute-Savoie, a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de la chute d'un enfant de 4 ans d'un télésiège. Les faits se sont passés à Chamonix le 13 février dernier, lors d'un cours particulier de ski. Les parents de l'enfant ont déposé plainte contre sa monitrice de l'école de ski français, le conducteur également du télésiège de la compagnie du Mont-Blanc. Le petit garçon a fait une chute de 12 mètres de haut. Il souffre d'un œdème pulmonaire, mais il a pu quitter l'hôpital 2 jours plus tard. Une centaine de proches des victimes de l'exposition à l'amiante ont manifesté aujourd'hui devant le palais de justice de Paris. Ils sont venus dire leur crainte qu'un procès pénal sur ce scandale sanitaire ne voit jamais le jour malgré les milliers de morts. Aujourd'hui, la cour d'appel de Paris doit rendre sa décision sur la mise en examen de Martine Aubry dans ce dossier. Et puis au Mondiaux de ski en Italie, Jason Lamy-Chappuy vient d'obtenir la médaille de bronze dans le combiné nordique. Vous écoutez France Inter, il est 16h03.
On va tous
et passé.
Mes camarades en pleine forme,
Frédéric Lopez,
traversent le studio 106 de la Maison de la Radio. Devant un public extrêmement chaleureux, ils ont rejoint leur micro. Ils peuvent donc donner un indice aux auditeurs de France Inter, puisque vous avez croisé notre invité dans les coulisses. Sonny Chan.
Il a une place très particulière dans le cinéma. Même si un de ses films est mauvais, c'est jamais sa faute.
Alors, Daniel Morin.
Il a un nom proche de celui d'une compagnie de croisière qui coule.
Pas loin. Vladimir Cosma. Ils sont magnifiques, spécialement aujourd'hui. Mais juste pour vous.
Frédéric Lopez, on va tous y passer du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
À demain.
France Inter.
La voix est libre.
Bonjour Frédéric Lédéon.
Bonjour Laetitia Gaillet, on vous retrouve à 17h.
À tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Tout à l'heure, nous allons entendre beaucoup de musique jouée par des ensembles de Toulouse. Vous savez qu'une partie de France Inter est à Toulouse et nous y sommes très souvent par le cœur ou même en vrai d'ailleurs. Et avant cela, il faut annoncer une nouvelle triste. Le grand pianiste Van Cliburn a disparu après Wolfgang Zavalich, annoncé hier, et Marie-Claire Alain, ça fait beaucoup je trouve. Mais enfin voilà, c'était hier et ce grand pianiste a été connu surtout par le concours international Tchaïkovski qui a été un événement destiné à démontrer la supériorité culturelle de l'Union soviétique pendant la guerre froide. Après la victoire technologique du Spoutnik lancée dans l'espace quelques semaines auparavant, mais Van Cliburn a joué tellement bien le premier concerto de Tchaïkovski et le troisième de Rachmaninov qui a eu, comme on a appelé ça, une standing ovation, c'est-à-dire une ovation debout pendant plus de 8 minutes, et les juges soviétiques ont été alors contraints de demander au patron de l'URSS, Nikita Khrouchtchev, la permission de donner un premier prix à cet Américain. Alors Khrouchtchev a dit est-ce qu'il est le meilleur ? Et on lui a dit oui, alors il a dit donnez-lui le prix. Ah, c'était beau, voilà, en pleine guerre froide pourtant. Donc évidemment, Van Cliburn a été un énorme symbole et on lui a fait un triomphe à l'américaine quand il est rentré avec les confettis jetés par la fenêtre et tout ça, et les fanfares. Voici un peu de l'Allegro con fuoco du premier concerto pour piano et orchestre de Tchaïkovski par Van Cliburn.